Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Beethoven en son temps. Alors aujourd'hui, je vous emmène au théâtre, plus précisément au Grand Théâtre de Pest en Hongrie. Nous sommes en 1812 et pour l'inauguration du bâtiment, on a demandé à Beethoven d'écrire la musique d'une nouvelle pièce de théâtre, Le Roi Étienne. Le suave et délicat cœur de femme que nous entendons est celui des demoiselles d'honneur de la très jeune princesse bavaroise Gisela, juste avant son union avec le roi Étienne, fondateur et saint patron de la Hongrie. Un extrait de la musique de scène du roi Étienne de Beethoven par le chœur de la radio hongroise et l'orchestre philharmonique de Budapest sous la direction de Géza Oberfrank. Cette inauguration du Grand Théâtre de Pest, le 9 février 1812, constituait un événement tant culturel que politique, une célébration de l'histoire de la Hongrie destinée dans l'esprit de l'empereur d'Autriche à apaiser les revendications nationalistes hongroises. Après le roi Étienne, la soirée se poursuivait avec une seconde pièce de théâtre, Les ruines d'Athènes, dont la musique était également signée Beethoven. Elle comprenait 8 numéros, dont une marche turque reprenant un thème écrit quelques années plus tôt pour le piano. Et oui, il n'y a pas que Mozart qui a écrit une marche turque, il y a aussi Beethoven. C'est que les turqueries étaient furieusement à la mode à cette époque. Certains pianos viennois comportaient même une pédale dite pédale turque ou pédale janissaire qui permettait d'imiter les instruments de percussion caractéristiques des musiques militaires turques. Triangle, grosse caisse et cymbales. Zim, 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 zim. Peu de temps après, Beethoven s'intéresse à l'histoire de Léonore Prohaska, une femme qui s'est fait passer pour homme afin de s'enrôler dans l'armée prussienne. Elle devient rapidement dans l'imaginaire allemand une figure idéalisée d'héroïne chaste, à tel point qu'elle est surnommée la Jeanne d'Arc de Potsdam. Le secrétaire du cabinet du roi de Prusse en tire une pièce de théâtre pour laquelle Beethoven compose une musique de scène qui comprend entre autres une saisissante marche funèbre. Cette marche funèbre, nous la connaissons, puisqu'il s'agit de celle de la 12e sonate pour piano, dont je vous propose d'écouter le début, interprété sur un piano d'époque par Jos van Immerzell. Pour sa musique de scène de Léonore Prohaska, Beethoven transpose cette marche funèbre une tierce mineure plus haut et l'orchestre. Aucun instrument clair, ni hautbois, ni trompette. Aux couleurs voilées des cordes, des clarinettes et des bassons s'ajoutent les cordes et la sombre pulsation de la timbale. « La marche funèbre que nous venons d'entendre continuera d'accompagner Beethoven, puisqu'elle sera jouée en 1827 à son propre enterrement. Comme quoi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Tiens, je m'aperçois que je n'ai pas encore composé la mienne. Je me demande si je ne devrais pas m'y mettre ce soir. Et quand je vous disais que cette marche funèbre avait accompagné Beethoven toute sa vie, eh bien on la retrouve aussi dans Tarpeia, encore une musique écrite pour le théâtre, cette fois-ci pour accompagner une tragédie de son ami Christophe Kouffner. Mais de cette musique de scène écrite en 1813, c'est maintenant une page fière et héroïque que je vous propose d'écouter, une marche triomphale pour célébrer la paix retrouvée entre les Romains et les Sabins. Avec timbales et trompettes, c'était la marche triomphale conclusive de Tarpeia, une musique de scène composée par Beethoven en 1813. Et dans la brillante interprétation de l'orchestre symphonique de la BBC, j'avais presque l'impression de voir les troupes défiler. Simple pièce de circonstance, me direz-vous ? Sans doute. Mais j'ai la conviction que c'est en écrivant pour la scène que Beethoven a mis au point et affiné son génie de la progression dynamique et de l'éclat orchestral. Et maintenant, je vous invite au bal Beethoven. C'est qu'au cours de l'été 1819, séjournant dans la petite ville autrichienne de Mödling, au sud de Vienne, Beethoven compose un ensemble de 11 danses viennoises, à trois temps bien entendu, pour les musiciens de l'auberge des deux corbeaux. En voici déjà deux, instrumentés pour deux clarinettes, deux cors, deux violons et une contrebasse. On présente souvent Schubert comme le premier compositeur ayant écrit des collections de valses, avec notamment ses deux célèbres recueils de valses nobles et de valses sentimentales. Mais peut-être conviendrait-il de citer également notre cher Ludwig, à qui le roulement entêtant des trois temps viennois n'était manifestement pas étranger. Allez, on écoute encore deux petites valses, l'une plus gracieuse, l'autre plus tendre, pour lesquelles les clarinettistes cèdent la place à deux flûtistes, le reste de l'ensemble étant toujours composé de deux cors, de deux violons et d'une contrebasse. Thank you. Charmante cette petite valse, vous ne trouvez pas? Et puisque nous en sommes au chapitre de la danse, il faudrait aussi mentionner les deux ballets qu'a composé Beethoven. Le plus abouti reprend l'histoire du mythe de Prométhée, qui plus tard inspirera également messieurs Schubert, Liszt, Wolff, Scriabine et Fauré. Celui de Beethoven est représenté pour la première fois à Vienne le 28 mars 1801. C'est l'influent chorégraphe Salvatore Vigano, le maître de ballet des théâtres impériaux, qui lui en a fait la commande en l'honneur de l'impératrice. Trois actes et une ouverture, plus d'une heure de musique composée en seulement deux semaines, pas le temps d'avoir des états d'âme. Plébiscité par le public viennois, l'œuvre est donnée 28 fois. Beethoven devient un compositeur de premier plan. Ce qui est étonnant dans cette musique, c'est qu'elle donne vraiment l'impression de nous raconter une histoire. Tenez, par exemple, cet extrait du deuxième acte. Une introduction lente et mystérieuse. Le drame qui se noue en mode mineur, avec hautbois plaintif et trémolo de cordes. Puis, changement de tempo et de tonalité, l'action est lancée. Syncope haletante, brusque contretemps, arrêt, reprise, contraste de nuances, crescendo, décrescendo. Tous les ingrédients du théâtre sont là. un extrait de l'opus numéro 43 de Beethoven, autrement dit de son ballet Les Créatures de Prométhée, dans l'interprétation vivante et inspirée du chef grec Georges Petrou, avec toute la richesse de couleurs des instruments d'époque de l'orchestre Harmonia Athénéa. Une dizaine d'années plus tôt, donc vers l'âge de 20 ans, Beethoven compose un pittoresque ballet chevaleresque, donné pour la première fois à Vienne en mars 1791 à l'occasion d'un bal masqué pour le carnaval. Le nom de Beethoven n'est même pas indiqué sur l'affiche. C'est le commanditaire de l'œuvre, le comte Waldstein, qui s'en attribue la paternité, une pratique assez courante à l'époque, il faut bien le dire. Les chevaliers boivent, dansent, ripaillent, font la guerre et, comme vous allez pouvoir l'entendre, vont traquer le gibier en forêt. Comme il se doit, ce sont les corps qui mènent la danse, finissant par entraîner tout l'orchestre à la chasse. Alors en 1814, c'est le fameux congrès de Vienne. On y redessine les frontières européennes, on y célèbre la paix et tous ceux qui ont vaincu Napoléon. L'empereur d'Autriche François Ier, Georges III roi d'Angleterre, le tsar Alexandre Ier, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III, sans oublier le pape Pie VII et les rois de Sardaigne, du Portugal, d'Espagne, de Suède et de Norvège. Beethoven y est traité comme une star. Il se produit devant les têtes couronnées et compose pour l'occasion un chœur des princes coalisés. En allemand, Chor auf die verbündeten Fürsten, un héroïsme vaillant et de bonne aloi, animé d'un bout à l'autre par le rythme caractéristique des marches et autres triomphes militaires. Pabam, 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 pabam. Les chœurs et l'orchestre symphonique de la BBC interprétaient sous la direction de Sir Andrew Davis un vigoureux hommage beethovenien au prince coalisé du Congrès de Vienne. Alors toujours au chapitre des pièces composées à l'occasion d'événements historiques, Voici maintenant l'incroyable Victoire de Wellington, écrite par Beethoven pour célébrer la victoire des Anglais, des Espagnols et des Portugais sur l'armée française à Vitoria, moins d'un an avant la chute de Napoléon. Une œuvre stupéfiante qui plonge l'auditeur au cœur de la bataille, comme au cinéma. Nous sommes le 21 juin 1813 dans le Pays basque espagnol. Sur cette plaine entourée de montagnes et traversée par le Rio Zadorra, deux armées s'avancent. Commandés par le marquis de Wellington, les 78 000 soldats anglais, espagnols et portugais, appuyés par 108 canons, se déploient en quatre colonnes. L'hymne « Rule Britannia » retentit. Face aux Anglais, les 57 000 soldats et 140 canons français sont commandés par Joseph Bonaparte, frère de Napoléon et roi d'Espagne. C'est la chanson populaire « Malbrousse en va en guerre » qui symbolise les forces françaises. Trompettes françaises lancent leur sommation en ut majeur. Les Anglais leur répondent par un contre-appel en mi bémol. Aucun des deux camps n'acceptant de se rendre, la bataille commence. Les coups de canon et de mousquet retentissent. We'll be right back. Dans le village de Vitoria, la brèche ouverte par les Anglais est fatale. L'armée française est décimée. Les derniers soldats fuient avec les civils. La chanson « Malbrou s'en va en guerre » n'est plus qu'une mélodie fantomatique incarnant une armée en lambeaux. Nous écoutions donc la victoire de Wellington, également nommée Bataille de Vitoria, l'une des pièces les plus étonnantes de Beethoven dans l'interprétation de l'American Symphony Orchestra sous la direction de Léon Botstein. Plus de 190 coups de grosse caisse imitant les détonations des canons, des crécelles pour les incessants feux de peloton, 4 trompettes, 4 cors et 3 trombones unis aux cordes et aux bois formaient un tableau symphonique d'un incroyable réalisme, une page visionnaire que n'aurait sûrement pas désavoué Hector Berlioz. Et c'est ainsi que Beethoven connut le 8 décembre 1813 l'un des plus grands succès de sa carrière lors de ce concert exceptionnel donné au profit des soldats blessés 2 mois plus tôt à la bataille de Hanau. Mais on ne va tout de même pas terminer cette preuve par Z par une défaite française. C'est pourquoi je vous propose une petite douceur, histoire de nous remettre de nos émotions. Je pense au lyrisme de la romance pour violon en fa, composée par Beethoven quelques années avant son célèbre concerto pour violon et qui témoigne elle aussi de l'amour que portait Beethoven à son 3e instrument avec le piano et l'orgue. Elle me fait penser à un air d'opéra, le violon nous confiant avec tendresse ses rêves, ses sentiments, ses espoirs.
Thank you.
la romance en fa de Beethoven, le violon réconfortant de Thomas Zehetmeyer, les instruments d'époque de l'orchestre du XVIIIe siècle de Franz Bruggen. Une conclusion tout en douceur après cette première exploration des aspects les plus inattendus de l'épopée beethovenienne. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconneau. Chef opérateur du son, Dofar Guérine. À la semaine prochaine. Et après le journal, vous retrouverez Jean Lebrun pour Intelligence Service.